Alors, bienvenue à chacun pour cette rencontre, deuxième rencontre de ce parcours, l'homme et la femme selon le plan de Dieu. Nous allons sans tarder commencer à présenter le plan de cette soirée. Donc, après l'introduction la semaine dernière sur les points généraux, un petit peu de notre lecture, ben, nous rentrons dans le vif du sujet avec la Genèse au chapitre 1, l'acte, premier acte de cette scène en quatre actes. Je l'ai intitulé « La création en parole ». En introduction, que j'essaierai de faire assez rapide, nous parlerons de la science de l'univers en évolution. Ensuite, nous verrons une petite histoire de la matière, la foi en la création évolutive par palier, et enfin, création, évolution de la matière, du vivant et de l'humain. Ça, c'est comme introduction. Ensuite, à vous de jouer. Donc, on fera une lecture à voix haute du texte de Genèse 1. Ensuite, je vous distribuerai sur une feuille ce texte avec pour que, pendant un temps de silence, de cœur, pour que vous puissiez le lire, et souligner pour vous-même déjà les points d'attention, et avec des questions aussi qui vous aideront dans votre réflexion. Et nous partageons tout ça. Ensuite, troisième partie, la partie donc de commentaires que je ferai personnel, que j'ai intitulé « Le premier et le second Adam ». Donc on verra l'humain en trois créations, l'humain en quatre personnages associés, du jeu divin au vous humain dans le don. Voilà, donc là, on rentrera vraiment dans le vif du sujet. Et puis, en conclusion, un double achèvement énigmatique. Alors, sans plus tarder, en introduction, donc première diapo, la science de l'univers en évolution. Connaissez-vous la théorie scientifique du Big Bang ? Elle révolutionne la conception de l'univers acquise par observation depuis l'Antiquité jusqu'au courant scientiste majoritaire au XIXe siècle en Europe. Alors, pendant tout ce temps, plus de 2000 ans, l'univers était considéré comme immobile, infini et composé de matière éternelle. C'était la croyance. On n'en avait pas de preuves, c'était la croyance généralisée. En 1915, le fameux Einstein ira jusqu'à modifier une équation de son modèle cosmologique de la relativité pour correspondre à cette conception. C'était vraiment ancré, même parmi les plus grands comme Einstein. Et voilà qu'un prêtre catholique, un Belge en plus, le chanoine Lemaître, renverse cette vieille croyance avec la théorie du Big Bang élaborée en 1931 suite aux observations de l'Américain Hubble et aux calculs du Russe Friedman. Donc vous voyez la coopération entre Russes et Américains, quand ça marche bien. Cette théorie fut confirmée et adoptée par l'ensemble du monde scientifique en 1965 grâce à la découverte de l'onde de fond cosmique. Le maître avait calculé quel était le premier rayonnement visible de l'univers 380 000 ans à partir du Big Bang, consécutif à sa naissance et initiateur de son expansion encore actuelle. L'univers, à l'heure où je vous parle, est en train de gonfler. Voilà. Il ne faut pas que ça vous fasse gonfler vous-même, mais et à une vitesse incroyable. Il est en expansion. Notre univers a donc une histoire qui débuta il y a environ 13,5 milliards d'années avec ce fameux Big Bang correspondant à une explosion lumineuse d'une intensité incalculable. On verra le mur de Planck qui est cette limite qu'on ne peut pas franchir. On ne peut pas aller au-delà des 10-32 secondes après la naissance de l'univers. En se refroidissant au fil de millions d'années, cette lumière se transforma en matière pour former progressivement des planètes. Puis, à environ 10 milliards d'années, après le Big Bang, la vie apparut sur la planète Terre pour évoluer selon chaque espèce au fil d'autres millions d'années. Enfin, l'humanité apparut à environ 13 499 960 000 années après le Big Bang. Environ. Ce sont des estimations. Donc, une rapide histoire de la matière, vu que c'est aussi notre histoire. une évolution décrite par la science. Donc, on a rapidement, je vous refais un petit peu ce qui a conduit en fait à l'exposition de cette théorie. Donc, l'univers géocentrique jusqu'au XVIe siècle, hein, depuis l'Antiquité jusqu'au XVIe siècle, une conception géocentrique de l'univers. C'est-à-dire que la Terre est au centre de l'univers, et l'univers tourne autour de la Terre. Et avec Évin, la révolution d'un autre chanoine, décidément, il faut des chanoines pour faire avancer la science, le chanoine Copernic, avec sa révolution copernicienne de l'héliocentrisme. Il dit, mais non, en fait, la Terre tourne autour du Soleil et le système solaire. Et puis, à partir de là... Ensuite, grosse évolution, 1862, loi de l'entropie, donc fin de l'univers. Donc là, 1862, c'est pas si vieux que ça. Avec cette loi de l'entropie qui est une loi physique générale, eh bien, l'univers aura une fin. Et vous savez quand est-ce qu'il est, la fin de l'univers? On l'a calculé, là aujourd'hui, il reste encore, vous avez le temps de prendre des cheveux blancs, il reste environ 32 milliards d'années. Voilà. Mais ça se calcule tout ça, et de manière scientifique. 1931, donc, avec le maître. Donc aujourd'hui, on sait que notre galaxie comporte environ, à quelques millions près, 200 milliards d'étoiles, notre galaxie. Et l'univers a environ 200 milliards de galaxies. Voilà. Tout cet ensemble est régi avec quatre forces, seulement quatre forces. La force de gravitation, la force de l'électromagnétisme, ce qu'on appelle l'interaction forte, ce qui correspond à la fission nucléaire, et l'interaction faible, la fusion nucléaire. Donc ce qui donne un schéma qui est en 2D, expansion de l'univers en deux dimensions. Voilà, donc en fait il faut le mettre en trois dimensions, ça va dans tous les sens, à partir de cet atome primitif, comme l'a appelé le maître, qui a comme un feu d'artifice. Sauf que ça continue. Là, et donc là, ici, on a l'âge de l'univers. Donc, ce fameux mur de Planck, voilà, parce que c'est au-delà de cette limite temporelle, 10⁻³² secondes après le Big Bang, les quatre forces sont confondu, donc on ne peut plus les calculer. Ensuite, on a donc... Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a... Donc la lumière se refroidit, vous voyez, une lumière, une chaleur intense, et ça se refroidit. Donc là, il faut... Donc en 3 minutes, hein, en 3 minutes, c'est rapide, c'est comme quand vous sortez un truc de votre micro-ondes, c'est bien chaud au début, et puis après, en 3 minutes, c'est froid. Hein. Donc là, en 3 minutes, on a ici la lumière, cette chaleur se refroidit et les premiers électrons libres se forment. Premier électron libre, après 3 minutes, après le Big Bang. Et là, on a, alors, ça ne correspond pas. Entre 3 minutes et 380 000 années. Il va y avoir, donc, les électrons libres vont finalement, se diffuser et on a ici cette limite. Avec la première époque visible. C'est-à-dire qu'on peut voir encore. On voit ce rayonnement ici, qui s'appelle le fond diffus cosmologique. Voilà. Ces électrons qui ont commencé à rayonner, ils se promènent toujours dans l'univers. Et en 1965, une grande oreille, grosse antenne américaine, a capté ce rayonnement. Preuve. La théorie du Big Bang. Et notre système solaire, lui, il a 9 milliards d'années. Donc là, il y a la formation à partir des électrons des premiers atomes. Ici, on a donc l'hydrogène neutre. Et puis après, vous faites tout le tableau de Mendeleïev avec tous les atomes. Et les atomes qui se regroupent pour former des planètes. Voilà. Et donc là, il faut entre 380 000 et 9 milliards d'années, on a notre système solaire. Et aujourd'hui, on est à 13,8 milliards d'années. Voilà. Nota bene. La théorie du Big Bang n'est qu'une théorie scientifique, certes, mais théorie quand même. Elle n'explique pas tous les phénomènes observables. Et elle est susceptible d'être mise en cause plus ou moins profondément. Hein, faut remettre les choses à leur place. Bon. Mais cette évolution est déjà révélée par la Bible, dans le récit du livre de la Genèse au chapitre 1. Alors, sans faire de concordisme, vous savez, le concordisme, on essaye que tout ce qu'on observe concorde avec le récit biblique, virgule par virgule. Mais pourtant, la description de l'évolution de l'univers conforme à la science, eh bien, elle apparaît déjà dans ce récit. Avec le jour 1, il se passe quoi ? Première chose qui apparaît, c'est la lumière. La lumière soit, et la lumière fut. Et puis, l'autre point que je voilà, c'est le quatrième jour, Dieu dit qu'il y ait des luminaires pour séparer le jour de la nuit. Donc, logiquement, un jour, selon ce récit, est une mesure de temps qui peut s'étendre sur des milliards d'années. Mais, puisque le soleil et la lune, qui marquent pour nous la mesure du jour de 24 heures, n'apparaissent qu'au quatrième jour. Donc le jour n'est pas ce que nous décrivons de 24 heures avec la rotation de la Terre sur elle-même. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est le soleil qui tourne, mais en fait c'est nous qui tournons. Voilà. Bon, très rapidement, mais quand même. La foi en la création évolutive par palier. Il est à noter que le récit de Genèse 1 est la seule cosmogonie de l'Antiquité, c'est-à-dire le récit de la Genèse du cosmos, qui non seulement résiste à l'épreuve de la science contemporaine, il n'y a pas de contradiction entre la théorie du Big Bang et le récit de la Genèse, même s'il a été écrit dans l'Antiquité, mais qui a sans doute aidé le chanoine Lemaître à construire sa théorie du Big Bang sur le plan physique. La foi est alors au service de la science. La science est aussi au service de la foi. Car la théorie du Big Bang aide à réaliser que la création, selon le récit de la Genèse, est toujours en évolution. Ça, c'est point fondamental. Mais une évolution qui passe deux paliers successifs selon deux autres modes de création particuliers. Le premier pour le vivant, selon son espèce, et le second pour l'humain, selon chaque individu. Autrement dit, l'évolution de chaque humain dépend de trois types de gouvernement: les lois physiques, l'ADN et la parole. Là, je reviendrai dessus. Avec ici, on a en fait Benoît XVI en 2008, devant tout un parterre de gens intelligents, au Bernardin, et qui dit « Dieu travaille. Il continue d'œuvrer dans et sur l'histoire des hommes. Et dans le Christ, il entre comme personne dans l'enfantement laborieux de l'histoire. Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. Dieu lui-même est le créateur du monde, et la création n'est pas encore achevée. » Il faut bien retenir ça. Donc on a ainsi, Dieu continue son œuvre de création aussi bien à travers l'évolution des planètes qu'à travers l'évolution de chaque être humain en particulier. D'où l'intérêt, toujours, de revenir à ce récit de création pour qu'on puisse évoluer de la meilleure des façons. Alors, ici, donc... La quatrième diapo et la dernière, la création, évolution de la matière, du vivant et de l'humain. Donc j'ai schématisé ça, j'ai mis Dieu au centre avec cette ligne verte, voilà, qui départage au-dessus le domaine de la foi, en dessous le domaine de la science. J'aurais dû mettre Dieu en fait en plein milieu, parce que Dieu est raisonnablement plausible. Ce qu'on appelle la philosophie, la théodicée. Philosophie, on peut démontrer que c'est plus intelligent de croire qu'il existe un Dieu unique que de croire soit qu'il n'en existe pas, soit qu'il en existe plusieurs. Ça, il y a un raisonnement, ça s'appelle la théodicée. Voilà. Donc, en fait, Dieu appartient, voilà, pas que dans le domaine de la foi. On peut accéder à Dieu par la raison. Ça, c'est vraiment un des dogmes de la foi catholique. On peut accéder par Dieu par la raison, mais pas le Dieu Trinité, le Dieu unique. Bon, cela dit, schéma de l'évolution à partir du Big Bang, de la matière à la vie et de la vie à l'humain, selon trois types de création et trois types d'évolution, chacune impulsée par Dieu. Donc on a ici au-dessus ces trois repères où dans le récit de Genèse 1, on a la mention du verbe créer. Ce sont les trois seuls versets. Genèse 1.1, Genèse 1.21, Genèse 1.27. Et ici, on a donc créé à quoi ? Le ciel et la terre, plutôt les cieux et la terre. Donc c'est l'univers dans sa globalité, mais on peut dire la matière. Ensuite, on passe à la création des êtres vivants, des animaux, 1.21. Et là, on a donc la création de l'humain, qui en plus est triplée. Ça, on en parlera plus tard. Ici, on a le schéma un peu beaucoup, qui est tracé par la science. Ici, le premier Big Bang avec l'évolution de la matière selon les lois physiques invariables. Je vous ai dit les quatre forces. C'est invariable. Depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'univers, c'est invariable. La loi de la gravitation, l'électromagnétisme, la fission et la fusion. C'est les mêmes quatre forces qui sont régies par des lois physiques. Ça, c'est immuable. C'est une fois. Et à noter que depuis le Big Bang, on a la même quantité de matière dans l'univers. Ça n'a pas changé. On a le même nombre d'atomes d'eau. Ni plus ni moins. Etc. Un deuxième point ici, c'est l'apparition de la vie. Et là, je vais noter en super bang. Parce qu'on ne sait pas. Autant nous ne savons pas comment la matière est apparue, autant on ne sait pas comment la vie apparaît. On n'en sait rien. Tout ce qu'on voit, c'est qu'elle apparaît. Et on a mesuré à travers des fossiles, j'ai oublié leur nom là, et on a pu remonter à 3,5 milliards d'années, environ la première apparition de la vie sur Terre. 3,5 millions d'années. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est une évolution du vivant par espèce. Et tous les petits traits jaunes, c'est les différentes espèces. On ne sait pas comment on passe d'une espèce à une autre. On voit bien qu'il y a une évolution. On le voit bien, extérieurement. Mais comment on passe ? C'est-à-dire que, et ça c'est régi par les lois physiques, et ça c'est régi par l'ADN et l'ARN. Mais pour passer de l'ADN d'une espèce à l'ADN d'une autre espèce, on ne sait pas comment ça marche. Donc on est incapable de le reproduire. Autrement dit, l'homme ne peut pas créer une nouvelle espèce de lui-même. Il ne peut pas. C'est un mécanisme qui est aussi fin et aussi mystérieux que celui qui a présidé au Big Bang, avec ses lois physiques. Et puis vient donc là on a, si vous voulez, trois paliers, hein, le premier, le deuxième, le troisième. Le troisième palier, c'est la création de l'humain. Là, qui est composé à la fois de la matière, première flèche, de la vie biologique, deuxième flèche. La troisième flèche, c'est l'esprit. Voilà. Et contrairement au darwinisme, au néo-darwinisme, il n'y a aucune preuve scientifique de la continuité d'évolution entre les primates et nous. Aucune. Aucune. C'est de la théorie, et je dirais même c'est de l'idéologie. Donc, on a ici une création, une fois, à 13,5 milliards d'années environ. Ici, on a des créations. Dans la première, en tout cas sur Terre, à ce que l'on sache, est à 3,5 milliards d'années. Et ensuite, selon chaque espèce. Et ici, on a aussi des créations, la première à 40 000 ans environ, et ensuite à chaque individu, Dieu crée quelque chose de nouveau qui s'appelle l'esprit et qui est unique pour chacun de nous. Donc là, il y a un petit cœur, là il y a un cœur un peu plus gros, il y a un gros cœur. Voilà, c'est l'amour de Dieu à travers toute sa création. Donc ici, on a la création de trois types d'évolution. Vous voyez ? Création de trois types d'évolution. Le premier type, c'est par les lois physiques. Le deuxième type, par l'ADN, ARN. Et le troisième type, par la parole. En tout cas, c'est ce par quoi nous nous reconnaissons et que nous évoluons en fin de compte, c'est par la parole. Un être humain qui ne parle pas, il meurt. Vous connaissez tous Mowgli ? Ben, ça a vraiment existé, Mowgli. Et en fait, donc c'était un enfant, un Indien qui a été récupéré par des Anglais qui faisaient un safari en Inde en 1890. Et tout d'un coup, ils ont vu dans la jungle, dans leur chasse, ils ont vu une meute de loups suivie par un petit homme. C'est une histoire vraie, qui avait 6 ou 7 ans. Ils l'ont récupéré et c'était des gens riches. On ne pouvait pas faire un safari en 1890 sans être dans les lords anglais. Donc ils l'ont ramené. Ils ont mis tout le paquet pour lui apprendre à parler. Il n'a jamais pu vraiment parler. Il est mort très jeune. La parole détermine notre évolution. Ça, je reviendrai dans le récit. Chapitre 2, chapitre 3. En fait, ce que le darwinisme ou le néo-darwinisme prétend, et souvent on prétend comme une évidence scientifique, c'est-à-dire que nous, il y a une évolution continue, c'est le continu qui est important. Une évolution continue entre les animaux et nous. Voilà. Et en fait, et qu'il le montre comme une évidence. Et c'est très pervers, hein. Vous avez les schémas, on voit un poisson qui évolue en grenouille, la grenouille qui évolue machin, en singe, en hominidé et l'hominidé en homme. Et ben ça, c'est effectivement une théorie, mais pour être une théorie, il faut qu'elle repose sur des faits qui soient acceptables par tous. Ce n'est pas le cas du darwinisme. Et le darwinisme a beaucoup plus de lacunes scientifiques que d'assises. En fait, scientifique. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais les chaînons manquants, par exemple, c'est un des problèmes majeurs. Et pourtant, on continue de l'enseigner comme si c'était aussi important que la théorie du Big Bang, ce qui est faux. Pas rentrer dans les détails, mais en tous les cas, ici, on a dans le récit de la création, on a bien une rupture entre le monde animal et l'humain. On verra. On verra comment. Mais en même temps, il y a bien aussi un rapport. Hein ? Il y a un rapport. Et quand je parle de l'évolution, on est constitué à la fois de matière et à la fois d'ADN ARN. Et l'ADN ARN qui nous constitue, eh bien, est aussi marqué par l'histoire de toute l'évolution du vivant. Ça, d'accord. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Alors, donc, ici, on a donc la matière avec ses lois physiques, le vivant avec l'ADN ARN. Donc, ici, c'est le mode. Voilà, on a une création de trois types d'évolution, hein, selon la loi physique. L'ADN ARN pour le vivant, et puis pour l'humain, on a la parole qui est le propre de l'homme et qui régit sa propre évolution. Mais il faut aussi bien souligner que son évolution dépend aussi de l'ADN ARN et dépend aussi des lois physiques. Hein ? C'est un peu, je reprends ici ce schéma, mais je le reprends avec ici, c'est, voilà. Donc, nous sommes créés de manière unique. Ça se distingue des autres créations. Et en même temps, notre évolution n'est pas indépendante de l'évolution du reste. La science est incapable de démontrer l'existence ou la non-existence de Dieu. Elle n'en est pas capable. Si un scientifique, avec sa robe de scientifique, vous dit « Dieu n'existe pas », c'est une opinion. C'est pas une démonstration. Mais avec le Big Bang, il est donc plus raisonnable de croire au Dieu unique tel qu'il est révélé à l'humain dans la Bible il y a plus de 2500 ans que de croire à un univers sans Dieu. Ça encore, je vous l'ai dit, c'est plus raisonnable. Bon, je passe maintenant tout de suite lecture à voix haute et à cœur ouvert dans le texte de Genèse 1. Donc, comme l'autre fois, est-ce qu'il y a une personne qui veut bien se mettre debout comme ça et proclamer la parole ? On va lire une fois ensemble à voix haute et puis après, on fera un petit peu, vous ferez une réflexion personnelle. Voilà. Alors, le texte n'est pas le texte habituel, c'est une traduction plus littérale. Donc, c'est pas Chouraki non plus, mais c'est du Persiota, quoi. Mais c'est toujours à partir. Alors, bien sûr, hein, on se fonde sur plusieurs traductions, puis on se fonde surtout sur l'original hébreu.
Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Et la terre était sans forme et vide, et une ténèbre était sur la face de l'abîme, et le souffle d'Elohim planait sur la face de les eaux. Et Elohim dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Elohim vit la lumière, car bien. Et Elohim sépara entre la lumière et entre la ténèbre. Et Elohim cria à la lumière, jour. Et à la ténèbre, il cria « Nuit ». Et il y eut un soir, et il y eut un matin unique, jour. Et Elohim dit, « Que soit un firmament au milieu de les eaux, et qu'il soit séparant entre eau des eaux. » Et Elohim fit le firmament et sépara entre les eaux de dessous le firmament de les eaux de dessus le firmament. Et il fut ainsi. Et Elohim cria au firmament « Cieux !» Et il y eut un soir, et il y eut un matin, le deuxième jour. Et Elohim dit, « Que soient rassemblées les eaux sous les cieux en un lieu unique, et qu'apparaisse le sec. » Et il fut ainsi. Et Elohim cria au sec « Terre !» Et au rassemblement de les eaux, il cria « Mer !» Et Elohim vit car bien. Elohim dit, que la terre verdoie vert, l'herbe ensemençant semence, l'arbre fruit portant fruit selon l'espèce, dont la semence est en lui sur la terre, et il fut ainsi. Et la terre expulsa le vert, l'herbe ensemençant semence selon son espèce, et l'arbre portant fruit dont la semence est en lui selon son espèce. Elohim vit car bien. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, le troisième jour.
Et Elohim dit, que soient des luminaires dans le firmament de les cieux, pour séparer entre le jour et entre la nuit, et qu'ils soient pour les signes et pour les saisons, et pour les jours et les années. Et qu'ils soient des lumières dans le firmament de les cieux, pour illuminer au-dessus la terre. Et il fut ainsi. Et Elohim fit deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour commander le jour et le plus petit luminaire pour commander la nuit et les étoiles. Et Elohim les mit, donna, dans le firmament de les cieux pour éclairer la terre et pour gouverner sur le jour et sur la nuit et pour séparer entre la lumière et entre la ténèbre. Et Elohim vit, car bien. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, le quatrième jour. Et Elohim dit, que foisonne de les eaux d'un foisonnement d'âmes vivantes, et que volent les oiseaux au-dessus la terre, sur la face du firmament de les cieux. Et Elohim créa les grands serpents, et toute âme vivante rampant, dont grouillent les eaux selon leur espèce, et tout oiseau ailé selon leur espèce. Et Elohim vit, car bien. Elohim les bénit pour dire, soyez féconds et multipliez et remplissez les eaux en les mers et que l'oiseau multiplie en la terre. Et il y eut un soir et il y eut un matin, le cinquième jour.
Et Elohim dit, que la terre expulse l'âme vivante selon son espèce, bétail et rampant et vivant de terre selon son espèce, et il fut ainsi. Et Elohim fit le vivant de la terre selon son espèce et le bétail selon son espèce et tout rampant de l'humus Adama selon son espèce. Et Elohim vit car bien. Et Elohim dit, faisons Adam dans notre image comme notre ressemblance et qu'il domine sur le poisson de la mer et sur l'oiseau de les cieux et sur le bétail et sur toute la terre et sur tout rampant sur la terre. Et Elohim créa l'Adam, Adam, dans son image, dans l'image d'Elohim, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Et Elohim les bénit, et Elohim leur dit, Soyez féconds et multipliez et remplissez la terre, et soumettez-la, et maîtrisez le poisson de la mer, et l'oiseau de l'essieu, et tout vivant rampant sur la terre. Et Elohim dit, voici, j'ai donné pour vous tout l'herbe semence qui est sur la face de toute la terre, et tout l'arbre qui a en lui un fruit d'arbre semence, pour vous ce sera pour nourriture. Et pour tout vivant de la terre, et pour tout oiseau de l'essieu, et pour tout rampant sur la terre qui en lui est âme vivante, toute verdure d'herbe pour nourriture. Et il fut ainsi. Et Elohim vit tout ce qu'il avait fait, et voici, bien abondant. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, le sixième jour.
Donc là, on passe au chapitre 2. Et furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et Elohim acheva au septième jour son ouvrage qu'il avait fait, et il se reposa au septième jour de tout son ouvrage qu'il avait fait. Elohim bénit le septième jour et le sanctifia, car en lui il se reposa de tout son ouvrage qu'Elohim créa pour faire. Ceux-ci sont les engendrements de l'essieu et de la terre quand ils furent créés au jour où Yahvé Elohim fit terre et cieux. Laissez résonner cette parole de Dieu dans votre cœur, en vous arrêtant sur les parties qui vous parlent le plus. Et vous pouvez bien sûr, si vous avez un stylo, annoter, faire vos commentaires. Puis réfléchissez en silence à partir des questions suivantes. La lumière a-t-elle un statut particulier parmi toutes les œuvres d'Elohim ? Ensuite, quel sens le mot « jour » a-t-il dans ce texte ? Quelle importance y a-t-il au fait que ce soit la première réalité créée ? Pourquoi le bien n'est pas mentionné au deuxième jour et uniquement en celui-là ? Est-ce une erreur ou y a-t-il un sens au fait que le vivant apparaisse au troisième jour, avant les luminaires du quatrième jour, en contradiction avec l'histoire de l'évolution de l'univers ? Les occurrences du verbe créer. Donc une occurrence, c'est toutes les fois où le mot est utilisé. Donc les utilisations, si vous voulez, du verbe créer ont-elles toutes le même sens ? La répartition de ces occurrences a-t-elle elle-même un sens ? Les dinosaures peuvent-ils avoir leur place dans ce récit de Genèse ? Voilà, donc je vous laisse 5-10 minutes pour reprendre ce texte, le lire, vous en familiariser avec ses propres mots qui sont nouveaux, avec son propre rythme. Et puis, voilà, si vous voulez, après, réfléchir à ces questions. Donc, en reprenant les questions les unes après les autres. La lumière a-t-elle un statut particulier parmi toutes les œuvres d'Elohim ? Qu'est-ce que vous avez pu voir dans le texte qui permette de répondre à cette question ? C'est vraiment on va vraiment essayer de se limiter à l'appui textuel pour donner une réponse. Il faut que votre réponse trouve dans le texte une justification. C'est pas juste que oui, mais Jésus a dit dans l'Évangile que. C'est très bien, moi j'aime bien Jésus. Et là, on part de la réflexion à partir du texte que vous avez sous les yeux. Voilà, et c'est important. Là, c'est vraiment pour laisser cette parole résonner. Donc, à partir de ce texte, la lumière, selon vous, a-t-elle un statut particulier parmi toutes les œuvres d'Elohim ? Si oui, pourquoi ? À vous de répondre. Elle est la première, effectivement. C'est le premier point, elle a un statut particulier du fait que ce soit la première chose qui est faite par Dieu. Ensuite, et ça va avec la deuxième question, quel sens le mot jour a-t-il dans ce texte ? Quelle importance y a-t-il au fait que ce soit la première réalité créée ? Parce que ça rejoint ce que vous dites, et c'est un point fondamental pour souligner l'importance du statut de la lumière. Excellente remarque. D'ailleurs, cette remarque est appuyée par le fait qu'une fois que la lumière apparaît, juste après, Elohim sépara entre la lumière et entre la ténèbre. Ça veut dire que s'il sépare, c'est qu'elles étaient confondues. Donc la lumière émerge de la ténèbre. Et c'est bien la ténèbre. Hein. C'est, en hébreu, c'est un singulier. Elle est unique. Voilà, c'est la ténèbre des origines, primordiales. Voilà, donc, elle émerge effectivement. Mais en lien avec le verset 5, ah, quand même, Elohim cria à la lumière quoi ? Ça y est, maintenant, vous faites le lien ? En fait, quand on a jour, c'est la lumière. Jour, c'est le nom de la lumière. C'est comme Grégoire, c'est mon nom. Donc, à chaque fois qu'il y a Grégoire, je suis là. Donc, en fait, au-delà du jour, c'est la lumière qui va être partout dans la création. Quand on dit, en fait, deuxième jour, c'est deuxième lumière. Troisième jour, troisième lumière. Jour, c'est le nom de la lumière. Vous voyez ? Donc ça, c'est un statut tout à fait particulier. Et puis, chose qui a été dite, on a ici au verset 3, et c'est la unique fois dans le récit, ce qui lui donne un statut particulier, la lumière n'est effectivement pas créée par Dieu, mais elle est, il y a même un mystère. Qui fait la lumière ? Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quel est le sujet qui fait la lumière ? Et ben dans le texte, on n'en sait rien. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet acteur. La lumière fut. C'est la seule fois. Toutes les autres œuvres, dit et Dieu fit ou Dieu machin, blablabla. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour la lumière, eh ben oui. Eh oui. C'est en fait, c'est la parole elle-même que Dieu dit qui va faire advenir la lumière. Oui, alors ça, c'est une. Alors, c'est une nuance parce qu'en fait, c'est le verbe kara, le verbe appeler. C'est comme je t'appelle. Tu m'aurais dit ton prénom. Gilles. Gilles. Tu vois, en fait, c'est le même verbe. Le verbe. On l'a traduit par crier parce que c'est vraiment appeler, proclamer en fait. C'est même proclamer. On peut le traduire par proclamer. Donc, c'est appeler en sens de proclamer, en sens de. Voilà. Donc, Gilles. Voilà, tac. Je t'appelle. Je crie ton nom. Sans cela, c'est une interpellation presque. Donc ici, on a effectivement deux, trois caractéristiques de la lumière qui lui donnent un statut particulier. Quelque part, la lumière se crée elle-même. En fait, c'est d'elle-même. Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Alors, avec la parole. Et il y a une émergence, elle émerge de la ténèbre. Parce que juste après, Dieu sépare la lumière de la ténèbre. Vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment ce statut particulier. Bon, je passe. Pourquoi le bien n'est pas mentionné au deuxième jour et uniquement en celui-là ? Le bien n'est pas mentionné. Donc là, on est au niveau de la création. Je reste aux six jours de la création. Pourquoi est-ce que le bien n'est pas mentionné uniquement au deuxième jour ? Alors, le bien en hébreu, c'est le mot tov. Hein, et car bien, en fait, c'est vraiment la traduction qui est la plus littérale et je trouve importante. Dieu vit car bien. Qui tov, qui c'est la particule qui se traduit par car. Donc il y a une sorte de conséquence. Dieu voit parce qu'il y a le bien. Ce qui laisse entendre que Dieu ne voit pas le mal. Première chose. Dieu voit parce que c'est bien, car bien. Alors il n'y a pas le verbe voir parce qu'il n'y a pas de bien. Donc il n'y a rien à voir. Non mais tu vois. En fait, car bien. Dieu voit car bien. Donc, s'il n'y a pas de bien, Dieu ne voit pas. Alors, pourquoi il n'y a pas de bien ? Alors là, on est sur une bonne piste, cher ami. Alors, il n'y a pas une réponse, hein, mais je pense que là, il y a une clé de réponse. Ici, on est au deuxième jour, et ça ne concerne pas que la Terre. On est ici, effectivement, sur... Pourquoi est-ce que donc là, le deuxième jour, hein, qu'est-ce qui apparaît le deuxième jour ? Le firmament, donc au milieu de les eaux et qu'il soit séparé entre haut et haut. Dieu fit le firmament et sépare entre les eaux de dessous le firmament. Shuraki traduit par plafond le firmament, d'accord ? Je trouve ça intéressant, mais c'est sympa. Il y a ce qui est en dessous le plafond, ce qui est au-dessus le plafond. Eh ben, qui est au-dessus du plafond ? Bon, je vous mets sur la piste. Si le bien n'est pas mentionné, c'est que le mal ne doit pas être loin. D'où vient le mal, mes amis ? De ce qu'il y a au-dessus du plafond. La petite araignée au-dessus du plafond, là. Non, mais très sérieusement. Si le bien n'est pas mentionné ici, c'est que c'est un indice que le mal va surgir du deuxième jour. En la création des anges. Ici, on a l'apparition des anges. Alors, je suis d'accord, hein, c'est une clé. C'est une clé, mais qui, à mon avis, est logique, plausible, par rapport à, pour justifier. Autrement, comment vous justifiez qu'il n'y a pas de bien ? Le fait qu'il n'y ait pas de bien, ça ne veut pas dire qu'il y a du mal. Parce que premièrement, Dieu ne crée pas le mal. Le mal ne fait pas partie de la création. Par contre, le mal, foncièrement, c'est une absence de bien. C'est ce que saint Thomas va dire, et il a tout à fait juste. Le mal n'a pas d'existence en soi. Si on donne au mal une existence en soi, on en fait un rival de Dieu. Et là, on rentre dans une conception, dualiste. Il y a le Dieu bon et il y a le Dieu mauvais. Non. C'est pour ça que le mal n'est pas mentionné. Mais le fait que le bien soit absent, c'est déjà un signe du mal. Eh oui, le mal est une absence de bien. Or, le mal ici est absent. Ça nous met sur la piste que le mal va surgir de ce deuxième jour, avec les anges dans le plafond. Ou plutôt au-dessus du plafond. Au-dessus du plafond. Oui, justement, c'est pas les eaux, c'est quel type d'eau. Voilà. Mais des eaux... Non, c'est le même, c'est Maïm. Maïm, c'est un pluriel, justement. C'est pluriel. Et justement, l'eau est de là, l'eau, c'est de là que surgit que surgit autre chose, la vie, hein, vous voyez. Des eaux au-dessus du plafond vont surgir les anges. Des eaux en dessous du plafond vont surgir les êtres vivants. Les anges, je vous rappelle, dans la conception biblique, ils sont immortels. Et ils sont au-dessus du plafond. Ensuite, est-ce une erreur ou y a-t-il un sens au fait que le vivant apparaisse au troisième jour avant les luminaires du quatrième jour en contradiction avec l'histoire de l'évolution de l'univers ? Est-ce une erreur ou est-ce que ça a un sens ? Parce qu'effectivement, dans l'évolution, on voit bien dans l'histoire de l'évolution, on voit bien que le Soleil, le système solaire apparaît 9 milliards d'années après le Big Bang. Et bien avant... l'apparition de la vie. Or, la vie apparaît le troisième jour sur la Terre avec le vert verdoyant. Donc les plantes. Alors, est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que c'est une erreur, une simple erreur, ou est-ce que ça a un sens ? Selon vous. Ça, c'est tout à fait juste, Gilles. Mais, n'empêche qu'au quatrième jour, si vous lisez le texte, n'empêche que ces luminaires, ils sont vachement importants. Ces luminaires, leur fonction, c'est qu'ils commandent, ils commandent le jour et la nuit. Or, je vous rappelle que le jour, ça veut dire plus que le jour. Le jour, c'est le nom de la lumière. Qu'ils ont quand même un rôle hyper important. En fait, Paul Beauchamp, qui a fait sa thèse sur Genèse 1, qui s'appelle « Création et séparation », va nous dire que, en fait, c'est une construction littéraire de mettre le quatrième jour, de mettre donc le jour de l'apparition des luminaires au quatrième et non pas au troisième. Pourquoi ? Parce que le quatrième jour est au centre des sept jours de la création. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Donc il y a ce qu'on appelle une construction en chiasme, une pyramide qui fait que le premier jour, il correspond au septième, le deuxième, il correspond au sixième, le troisième, il correspond au cinquième, et il y a le quatrième qui est au-dessus et qui commande tout le reste. Et il est au centre et il commande le reste. Et c'est le plus important. C'est le sommet. Et pourquoi c'est le sommet? Parce que justement, il commande le jour et la nuit. Il scande le temps. Or, le temps, c'est ce avec quoi les hommes évoluent. Et non seulement évoluent, mais obéissent au commandement de Dieu. C'est le temps de la liturgie. Le temps des fêtes. Et c'est précisé, hein. C'est précisé dans le texte biblique, hein. Pour les, voilà, exactement. Et qu'il soit pour les signes et pour les saisons et pour les jours et les années. Les signes qui vont déterminer les fêtes liturgiques. L'action de Dieu dans le monde. Voilà. Donc, c'est voulu, en fait. Ces luminaires devraient être au troisième, mais on les a mis exprès au quatrième. Pour les mettre au centre. Ils commandent le reste. D'où l'importance du jour, hein. Encore une fois. Les occurrences du verbe créer ont-elles toutes le même sens? La répartition de ces occurrences a-t-elle le même sens? Donc, je vous rappelle, il y a trois versets. Avec une occurrence au verset 1, une occurrence au verset 21, et à trois occurrences au verset 27. Alors, est-ce que elles ont toutes la même valeur, le même sens? D'accord, donc là, oui, tout à fait. Donc là, vous nous faites une lecture sur, en fait, la succession des trois verbes créés au verset 27 qui n'ont pas le même sens. Effectivement, s'ils sont répétés dans le même verset, a priori, c'est qu'il ne s'agit pas exactement de la même chose. Ça, c'est tout à fait juste, donc premier point. Et par rapport aux deux autres, c'est-à-dire à la première occurrence et à la deuxième, est-ce que vous avez des remarques à faire? Alors, c'est intéressant. Le mot hébreu, c'est bien le préfixe « be ».« Be », c'est bien, c'est « dans » l'image. Et justement, s'il construit dans l'image, c'est que quelque part, l'image, elle préexiste. Ben, c'est ce que va dire, et ça je veux le dire, saint Paul en Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. Et ça, c'est un commentaire juif du texte biblique. Parce qu'ils ont vu, comme vous, cette anomalie. Que l'image, en fait, elle préexiste à la création de l'humain. Très intéressant. Très intéressant. Il crée dans l'image. Vous voyez? Mais c'est pour ça que les mots sont importants et de traduire littéralement. Vous voyez? Ça permet de voir des trucs. Attends, mais c'est bizarre. Comment est-ce qu'il peut créer dans l'image? Ça veut dire que l'image, elle existe avant. Ça, c'est une première chose. Bon, juste une petite remarque sur la première occurrence du mot créé. Et c'est pour ça que j'ai bien, dans le texte, c'est les cieux et la terre. Et en fait, ils sont scandés en permanence. Les cieux et la terre, en fait, c'est un résumé de tout l'univers. En fait, ce premier verset, c'est un verset, ce qu'on appelle une introduction générale. Et comment on le sait? C'est parce que il est dit, Dieu créa les cieux et la terre. Or, les cieux, ils apparaissent quand? Ils apparaissent seulement au deuxième jour, et la terre au troisième. Donc c'est une appellation générique. C'est le titre général de ce qui va se passer après. Mais ça ne se passe pas au moment où c'est écrit. C'est une annonce, en fait. Une annonce. Et la réalisation va suivre. Il cria au sec, terre. Et il cria, hop, cieux. Donc ça veut dire que ça vient après, en fait. C'est une annonce. Eh bien, pourquoi est-ce que, du coup, ce triple créé serait pas une annonce de quelque chose qui n'est pas encore là. Il créa l'Adam. Au moment où c'est écrit, peut-être que l'Adam n'est pas encore là. Comme les cieux et la terre, au moment où c'est écrit, il créa les cieux et la terre, ils ne sont pas encore là. D'accord ? Au verset 1, et puis en fait, ils apparaissent qu'au deuxième et troisième jour. Bah, ça, si ça se passe comme ça pour le premier verbe créé, ça pourrait peut-être se passer comme ça pour le deuxième verbe créé. On passe, enfin, les dinosaures peuvent-ils avoir leur place dans ce récit de Genèse 1 ? Gros dinosaures. Papa, les dinosaures, ils sont où ? Les dinosaures, bien sûr qu'ils ont leur place. Bien sûr, dans tout ce qu'on a vu par rapport au fait que le jour, c'est une indication de temps, même de lumière d'ailleurs. En vérité, le jour, c'est une indication de lumière. Et donc, un jour, comme j'ai dit, peut durer des millions d'années. Et donc, dans la création des espèces animales, bah, on a le temps de voir les dinosaures apparaître et disparaître. Pas de problème. OK. Donc maintenant, on va revenir quand même, parce que là on est au cœur du sujet, l'homme et la femme selon le plan de Dieu. Donc c'est la première fois occurrence, donc là on va revenir là-dessus maintenant sur le commentaire. Elohim dit « Faisons Adam, Adam, trois lettres, Aleph, Dalet, Mem, en hébreu, dans notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine, etc. » Et Elohim créa l'Adam, quatre lettres, et Aleph, Dalet, Mem. Dans son image, dans l'image d'Elohim, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Ici, pour la première fois dans le récit, Elohim ne fait pas ce qu'il dit. Elohim ne fait pas ce qu'il dit. Il dit qu'il fait, on a faisons, et ensuite il ne fait pas, mais il crée. Vous allez me dire, c'est un peu tiré par les cheveux. Non, non, non. Il aurait pu dire créons. Il aurait pu dire créons. Et il crée. Mais il a dit faisons. Et ensuite il crée. Est-ce qu'il aurait oublié qu'en fait il a dit faisons et puis en fait il fait autre chose. Ce qui attire d'emblée l'attention sur ce verbe créer, attention redoublée par sa répétition triple dans le même verset. C'est unique. Unique. Pour les cieux et la terre au sens de tout l'univers, puis pour les grands serpents et toute âme vivante, et enfin pour l'humain, Elohim crée successivement trois éléments nouveaux. Mais cette succession des trois éléments nouveaux semble bien se reproduire pour l'humain lui-même. Autrement dit, il ne crée pas trois fois la même chose. D'accord ? Ça va jusque-là ? Il y a d'abord la création de l'Adam. Et j'ai souligné ici, on n'a pas la même chose entre l'annonce et sa réalisation. Là, il y a trois lettres, là, il y en a quatre. C'est pas le même mot, hein, excusez-moi, hein, c'est pas le même mot. Donc, il y a quand même une différence. Faisons Adam, il créa l'Adam. Bon. Donc, on a la création de l'Adam, puis celle de le. Il créa le. Il le créa. Créa le. C'est un pronom relatif. Mais à qui est-il relatif, ce « le » Est-ce à l'Adam juste avant ou à Adam du verset précédent? Eh bien oui, messieurs, dames, grammaticalement, les deux sont valables. Ça peut se référer à l'Adam, mais dans ce cas-là, il ferait une répétition pure et simple. Ça peut aussi se référer à Adam. Or, la troisième création est composée de deux créatures distinctes selon leur sexe. Il les créa. Puisque l'évolution est bien marquée de la deuxième à la troisième création, on voit bien que ça évolue, puis ça évolue plutôt, voilà. Pourquoi ne le serait-elle pas tout autant, sinon davantage, de la première à la deuxième? Il y a une évolution entre la première et la deuxième, qui est aussi importante, voire même plus, que l'évolution entre la deuxième et la troisième. Ce qui appuie le fait que le en question ne serait pas l'Adam, mais Adam. Ils sont donc distingués. Nous trouvons une réponse comme en écho dans ce verset de saint Paul en référence au Christ Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. À sa suite, saint Irénée de Lyon au IIe siècle, puis l'exégète Origène au IVe, ont interprété en Genèse 1,27 la création de deux Adam, en appliquant le pronom relatif « le » à Adam, du verset 26. Donc ce que je vous dis là, c'est appuyé par les pères de l'Église, par saint Paul. L'humain en quatre personnages associés. Attention, il faut vous accrocher à vos sièges. D'abord, Elohim créa l'Adam dans son image. D'accord ? Son image qui est le premier-né avant toute créature. L'image du Dieu invisible. Le Christ. Qui préexiste à toute sa création. C'est l'Adam unique. L'Adam longue. Excusez-moi, enfin, bon, un peu d'humour, parce que c'est un peu... Hein. L'Adam unique. À la suite de Paul, nous y reconnaissons la figure du Fils unique d'Elohim Père et sa parfaite image. Créé, donc incarné. C'est la figure de Jésus-Christ. On a l'image préexistante qui est le Verbe de Dieu, mais le Verbe s'est fait chair. Et sa figure, c'est l'Adam. Donc d'abord, il crée l'Adam unique, figure de Jésus-Christ. Dans l'image, donc dans le Verbe. Puis, dans l'image d'Elohim, il le créa. C'est-à-dire, dans l'Adam. L'Adam, c'est l'image d'Elohim. D'accord ? Dieu créa l'Adam dans son image. Donc, l'Adam, c'est l'image d'Elohim. Donc, dans l'image d'Elohim, c'est dans l'Adam. Il créa qui ? Il créa Adam. C'est-à-dire, dans l'Adam, Elohim crée Adam. Mais ce que je vous dis là, c'est pas tiré par les cheveux. Hein, c'est... On suit le texte, on le décortique. Touc, 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 touc. Ce dernier, Adam, sans l'article, est l'ancien Adam. Ah, pourquoi il est ancien ? Dans le sens où il est mentionné avant le nouvel Adam, l'Adam unique. Donc on peut l'appeler l'ancien, dans le sens où il est mentionné avant. Il apparaît le premier. Donc c'est le premier Adam. Et le deuxième Adam, ce serait l'Adam. Vous me suivez ? Parce que saint Paul va reprendre la même terminologie. Le Christ, c'est le nouvel Adam. Adam, donc le genre humain, c'est l'ancien Adam. C'est nous. Enfin, donc d'abord, puis enfin, troisième verbe créé, mâle et femelle, il les créa. Cette ultime création peut alors être interprétée de deux façons. Là, il faut suivre encore mieux. Hein. Soit d'Adam comme genre humain, Elohim crée inséparablement chaque individualité humaine. Soit de Adam, de ce qui précède juste. Soit Elohim crée la distinction sexuée en distinguant l'Adam unique comme principe masculin et Adam, l'humanité créée à l'image de l'Adam unique comme principe féminin. Ouh. Ce qui peut aussi se lire comme ça. Si on a deux Adam, mâle et femelle, il les crée, il les distingue aussi suivant distinction sexuée. Donc l'Adam, et là, vous allez voir où je vais revenir, du coup l'Adam devient l'époux et Adam devient l'épouse. Éphésiens 5. C'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère et les deux feront chair une. Ce mystère est grand. Je veux parler du Christ et de l'Église, de l'Adam et d'Adam. Ça prend du sens, mes amis. Et en fait, c'est une lecture possible du texte de la Genèse. C'est ça qui est fort. Ce « les », il « les créa », c'est qui ? Encore une fois, ça peut être de Adam. Il va créer le mâle et la femelle, ou alors il « les créa ». C'est-à-dire qu'il va les distinguer l'Adam et Adam. Il va créer la distinction sexuée. Mais en parlant, le pronom relatif, là, serait relatif à l'Adam et Adam, deux. L'un serait le principe masculin, l'autre serait le principe féminin. Et ça, c'est pas tordu, puisque saint Paul va reprendre cette même interprétation. De toute façon, en distinguant deux Adam, il apparaît bien quatre personnages dans ce verset pour trois créations. Là, il faut s'accrocher encore. Donc, l'Adam, puis Adam, et enfin mâle et femelle. Inséparablement unis dans l'ultime acte de création, il les créa. Ils sont créés inséparablement. Ils sont unis par l'acte de création. Donc, on peut voir quatre personnages. L'Adam, Adam, mâle et femelle. Voilà. Mais mâle et femelle sont inséparablement unis par l'acte même de création. On ne peut pas les séparer. Ils sont distingués, mais ils sont unis. Bien. Remarquons enfin que si l'Adam unique peut être associé avec Adam dans une relation de couple unifié en tant que créature, c'est dans le cas où on prend l'interprétation de l'Adam comme principe masculin et Adam comme principe féminin, il peut être aussi associé avec le personnage divin Elohim dans le faire relatif à Adam. Attention. En effet, faisons Adam signifie d'emblée qu'Elohim s'implique personnellement dans ce faire d'Adam à la première personne du pluriel. Donc ils sont plusieurs. Mais c'est qui ? Hein ? Donc c'est la première fois qu'on a Dieu qui parle à la première personne. D'accord ? Ça, c'est la première fois. Et faisons. C'est la première personne du pluriel. Nous. Elohim dit faisons. Donc il y a lui et il y a quelqu'un d'autre. Or, si l'Adam est créé avant Adam, cet autre peut être l'Adam. Mais à la lumière de l'interprétation de la création de deux Adams distincts, d'abord l'Adam, unique figure du Christ, puis Adam, il est possible de lire l'implication à la fois d'Elohim et de l'Adam dans ce faisant. Car ce faire reste à faire après la création. Ce reste à faire. Il n'est pas fait. Il est juste créé. Il n'est donc pas encore fait. Vous allez dire, je joue sur les mots, mais les mots ont tout leur poids, mes amis. On est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas écrit par hasard. Tout a un sens. Il faut prendre au sérieux la parole de Dieu. Sans non plus tomber dans des interprétations qui n'ont ni queue ni tête. Donc tout ce que je vous dis là, ça a des références bibliques, des échos dans le Nouveau Testament. Saint Paul, c'est quand même pas mal. Saint Irénée, c'est aussi bien. Et puis Origène, c'est bien aussi. Il est possible, dans cette lecture-là, de quand on distingue deux Adam, l'Adam, l'unique, est créé avant Adam. Donc il est tout à fait plausible qu'il soit impliqué dans ce faire divin. C'est un faire humano-divin à ce moment-là. Et cet Adam unique, comme on l'a dit, est la figure de celui qui est à la fois l'image du Dieu invisible et le premier-né avant toute créature, selon saint Paul. Mais là, ça parle de nous, mes amis. Alors, le texte le laisse peu laisse entendre. C'est-à-dire que nous, nous avons la lumière de Paul, qui lui-même est la lumière du Christ. En s'incarnant, le Christ a donné tout son sens à ce texte. Mais qui était là avant que le Verbe se fasse chair. Mais le Verbe se faisant chair, ça prend tout d'un coup un autre relief. C'est un faire qui reste à faire. Et pour chacun de nous. Mais ce faire, nous ne pourrons pas le faire sans le Christ. C'est un faire qui reste à faire. Avec le Christ qui est Dieu. Donc, quand on dit le Christ, on dit à la fois Dieu et à la fois l'Adam et Elohim. Les deux sont impliqués dans le Christ. Vous voyez ? Du jeu divin au vous humain dans le don. C'est la dernière. Suite à l'annonce du faire divin, il y a l'annonce, hein, il n'y a pas encore la réalisation, comme on l'a dit. À la première personne du pluriel, faisons, et à la triple création du verset 27, la relation divino-humaine acquiert un nouveau degré d'intensité, toujours à l'initiative divine, par l'usage de la première personne du singulier dans l'action de donner la nourriture. Là, on est au verset 29. Elohim dit, « Hine, voici, j'ai donné pour vous, ce sera pour nourriture. » Plusieurs remarques sont à faire dans ce qui apparaît ainsi comme le sommet de l'action divine. L'action atteint son sommet quand le sujet peut dire « je ». Ça atteint son sommet. C'est la personnalisation de l'action. Et l'action est vraiment personnelle à ce moment-là. Et donc le sujet se donne à travers son action quand il dit « je ». « Je vous donne ». Ça veut dire, sous-entendu aussi, je me donne à travers le don que je vous fais. Donc plusieurs remarques dans ce qui convient d'appeler le sommet de l'action divine. C'est la première fois que Dieu dit « je », donc le sommet. C'est son action la plus personnelle, où il va s'impliquer lui de manière unique. Jamais il ne s'est impliqué personnellement dans une action avant celle-là. D'où son importance. Alors, premier point, en utilisant la particule démonstrative « voici » pour introduire son action personnelle, celle de donner, Elohim en souligne lui-même l'importance comme modèle à imiter. « Voici », c'est une particule démonstrative. Donc, regarde bien ce que je fais, ça que ça veut dire. « Voici ». Mais si je t'invite à la regarder si bien, c'est parce que je t'invite à faire pas la même chose, en fait. Deuxième remarque. À la suite de la triple activité créatrice du verset 27, le destinataire du don d'Elohim, pour vous, peut s'entendre de l'Adam associé à Adam ou de Adam mâle associé à Adam femelle. On revient sur... Il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités. Voilà. Il y a plusieurs possibilités. Donc, le pour vous, ça peut vouloir dire donc mâle-femelle, ou alors l'Adam et Adam. Justement, c'est le voici, non seulement pour que tu fasses comme je fais, mais pour que tu le fasses comme je le fais, et que tu le fasses comme un jeu. Mais le jeu, il est adressé à vous, pas à tu. Ça veut dire que l'humain, pour devenir « je » comme Dieu, aura besoin de l'autre, qui lui est associé. Le mâle à la femelle au mâle, ou alors l'Adam à Adam. Ça peut pas, on ne peut pas y arriver tout seul, ça que ça veut dire. Au « je » divin, on ne peut pas y arriver tout seul. C'est le « vous », c'est pour vous. Il est adressé aux deux à la fois. Donc les deux ensemble. Ils vont s'aider à pouvoir dire « je » comme Dieu dit « je ». En fait, voilà, ça va être en fait l'achèvement de notre humanité. Troisième point, en donnant ainsi la nourriture, Elohim montre en quelque sorte l'exemple de l'intensité singulière et personnelle du don avec laquelle son image, à la fois le mâle et la femelle, doivent nourrir mutuellement leur relation pour atteindre chacun en tant que Adam la ressemblance avec le jeu divin. C'était ce que je vous ai dit. Je vous donne. Et donc vous devez de même vous donner mutuellement. Et en vous donnant mutuellement l'un à l'autre, comme mâle et femelle, comme mari et femme, on verra au chapitre 2, vous allez pouvoir être à la ressemblance de Dieu. Mais pas autrement. Ça va? Vous comprenez? C'est le vous. Je vous donne. Conclusion. Un double achèvement énigmatique. Avant de conclure cette deuxième rencontre, remarquons qu'à proprement parler, le récit de création s'arrête à la fin du chapitre 1. En effet, le septième et dernier de la série, Elohim ne crée plus. Ce qui est souligné par le fait qu'il ne parle plus. De plus, le dernier verset du chapitre 1 est en lui-même assez clair en ce sens. Et Elohim vit tout ce qu'il avait fait. Si c'est tout ce qu'il avait fait, il n'a plus rien à faire. Il n'y a donc plus rien à faire après cela, en toute rigueur de terme. Il vit tout. Ce qu'il avait fait. Le tout. Enfin, le premier verset du chapitre 2 accentue encore en ce sens. Et furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Donc c'est achevé, il n'y a plus rien à faire les gars. C'est fini, End. The end. Cependant, en ce cas, il n'est précisé ni l'auteur de cette action d'achever, ni son jour. On ne sait pas qui achève. Et on ne sait pas quand ça se passe. Ce n'est pas dans le sixième jour. Le sixième jour, c'était avant. Mais ce n'est pas dans le septième. Le septième, c'est après. On est où, les gars, là ? Le double caractère énigmatique de cette action d'achever est souligné avec le verset suivant, qui désigne de façon insistante à la fois le sujet du second achèvement et son jour, en notant d'emblée « Elohim acheva au septième jour ». Juste après ce verset 1, il y a ce verset 2 qui commence comme ça, avec le même verbe « achever ». Et là, on précise bien qui achève, c'est Elohim, et on précise bien le temps, c'est au septième jour. Une autre action d'Elohim apparaît ensuite, acheva au septième jour son ouvrage et il se reposa, accompagné de la répétition de la mention du jour, le septième jour, et du complément d'objet avec toutefois une différence majeure. À cette deuxième action de se reposer correspond tout l'ouvrage et non plus seulement l'ouvrage. Vous verrez dans votre texte, l'achèvement n'est donc complet qu'avec cette deuxième action de se reposer. Pourquoi pouvons-nous alors conclure que le premier achèvement en Genèse 2.1, ici, est lui-même annoncé, mais non encore complété ? Et pouvons-nous alors conclure qu'il ne se réalise ni au sixième jour qui le précède, ni au septième jour qui le suit, mais en ce long jour suivant le septième, mentionné en Genèse 2.4, pour tout ce chapitre 2, au jour où, il y a un nouveau sujet qui arrive, Yahvé Elohim fit terre et cieux. Le sujet de l'action de Genèse 2.1 serait alors, dans ce cas, non plus Elohim, mais Yahvé Elohim. Nous verrons ça dans le deuxième acte.